L'invité de Radio Classique, c'est le général Dominique Trinquant ce matin. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Sur Radio Classique, vous êtes aussi l'auteur de « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » paru chez Robert Laffont il y a quelques mois. Alors, avant d'évoquer l'Ukraine, votre réaction à cette étude qu'on détaillait dans le journal de 8h, elle émane de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. 60% des jeunes Français de 18-25 ans seraient prêts à défendre leur pays en cas de conflit. Un peu plus d'ailleurs que leurs aînés de la tranche d'âge d'au-dessus. Des jeunes Français patriotes. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est contre-intuitif?
Non, ça ne me surprend pas et c'est une bonne nouvelle de pouvoir le publier. Nous dénigrons trop souvent la jeunesse, nous dénigrons trop souvent l'esprit français et c'est une preuve que le pire n'est jamais certain et que les jeunes, effectivement, ont toujours chevillé au cœur la foi pour la patrie et pour cette patrie qui est concrètement ce que nous sommes aujourd'hui.
Vous voyez ça comme une bonne nouvelle. Il y a aussi une part de gravité dans ce sondage, puisque c'est aussi, les jeunes le disent, c'est aussi le fait qu'ils s'attendent, ou ils évoquent ça comme une possibilité, le fait qu'il y ait un conflit qui touche notre sol.
Oui, mais tout à fait. Mais je crois que c'est intéressant de constater que ces jeunes qui ont été élevés par des parents qui ont connu une parenthèse très calme, dans laquelle la vie était un long fleuve tranquille, s'aperçoivent que les dangers sont à nos portes. Et je le dis souvent, ça ne veut pas dire qu'on reçoit des obus sur notre territoire, mais on a des attaques cyber, des attaques de communication, et je pense que ces jeunes qui sont très connectés se rendent compte.
Alors l'Ukraine mobilise plus largement sa population. Est-ce qu'on peut dire que le pays se prépare à mettre toutes ses forces humaines dans la bataille?
Oui, l'Ukraine, ça ne fait aucun doute, cette année 2024 va être extrêmement difficile pour elle. Va être difficile parce qu'elle manque d'hommes, de combattants, et d'où la mesure qui vient d'être prise par la Rada. Et puis, manque d'armement, parce que les Américains sont bloqués avec le processus des élections présidentielles. Et les Européens, qui viennent de, justement, ces dividendes de la paix, ces 30 années pendant lesquelles on s'est désarmé, ont du mal à redresser la barre en production d'obus, d'armement, etc. Donc l'Ukraine doit tenir, il faut rappeler les paroles de Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale qui disait « celui qui gagne, c'est celui qui tient le dernier quart d'heure ».
Oui, effectivement, mais est-ce que ça peut faire la différence? Il y a aussi la question de concrètement cette mobilisation des hommes, aussi éventuellement des femmes ukrainiens, ukrainiennes. C'est pas forcément facile à faire accepter par la population. Il y a une crainte avant cette possible mobilisation de tout un chacun.
Non, c'est pas facile et... Si je mets ça en parallèle avec le sondage dont vous parliez juste avant, 60% des jeunes Français sont prêts à défendre leur patrie alors qu'elle n'est pas directement attaquée. Là, l'Ukraine, elle est directement attaquée. Simplement, il y a l'usure de la guerre, c'est certain. Ça fait 2 ans qu'ils combattent, enfin 10 ans pour eux, c'est 2014, mais vraiment au contact avec des gens qui combattent tous les jours depuis 2 ans, j'ai des échos en Ukraine, effectivement, les gens sont fatigués, et la population est fatiguée parce que la Russie veut épuiser la population. D'où ces attaques permanentes sur l'énergie et sur, j'allais dire, le pays profond de l'Ukraine.
Précisément, le système énergétique ukrainien a été à nouveau durement touché ces 24-48 dernières heures. Dans l'Est, la centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau visée. C'est la première fois qu'elle l'est depuis novembre 2022, donc 1 an et demi. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit craindre un tournant dans la guerre. Pourquoi la Russie, qui avait arrêté, attaque à nouveau Zaporijjia?
Alors écoutez, Zaporijjia est un endroit exceptionnel pour deux raisons. La première, c'est la plus grande centrale nucléaire en Europe. La deuxième, c'est que c'est la première fois qu'une centrale nucléaire est au cœur des combats. Enfin, au cœur des combats proches de la ligne de front. Et donc, chacun se renvoie la balle. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir tiré, les Ukrainiens accusent les Russes. Je pense qu'il y a derrière l'inquiétude liée à l'absence d'énergie, mais il faut rappeler que cette centrale ne produit plus d'énergie depuis longtemps, mais aussi la peur du nucléaire. Parce que dès qu'on parle, frappe sur une centrale nucléaire, tout le monde pense à Tchernobyl, à des incidents nucléaires. Or, c'est l'anxiété chez la population qui est recherchée par ceux qui frappent sur cette centrale.
Vladimir Poutine, lui, parle de ces frappes sur le secteur énergétique. Il dit qu'il s'agit de démilitariser l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et je rappelle que c'est un crime de guerre, ce qu'il est en train de faire. On n'a pas le droit de frapper sur des infrastructures civiles. Alors vous me direz, l'énergie, évidemment que ça sert aux militaires. Mais ça sert essentiellement aux civils. Et c'est là qu'il veut frapper. Il veut frapper pour user la population ukrainienne après 2 ans de guerre et qu'elle en soit lasse de la guerre et qu'elle finisse par accepter ce qu'il propose indirectement aujourd'hui, c'est-à-dire un accord dans lequel il garderait le terrain qu'il a occupé.
Vous parlez de crimes de guerre, en général, général Dominique Trinquant. Sur le terrain, l'ONU dénonce le recours de plus en plus fréquent à des doubles frappes, c'est-à-dire un bombardement, puis, quand les services de secours sont là, un nouveau bombardement. Est-ce habituel et est-ce conforme aux lois de la guerre?
Non, alors bien sûr, ça n'est pas conforme du tout aux lois de la guerre. Mais même la première frappe, si vous voulez, on est en train de chercher d'autres excuses. Mais la première frappe n'est non plus pas conforme aux lois de la guerre. Mais alors la deuxième, c'est encore pire. C'est-à-dire, pour expliquer clairement, on frappe, à ce moment-là, il y a des secours qui viennent pour aider les gens ou regarder dans les débris ce qui peut être sauvé, et une deuxième frappe arrive sur le même endroit, c'est-à-dire qu'on frappe les sauveteurs. Donc c'est vraiment un crime absolu.
On parle de plus en plus de guerre d'usure. Est-ce que c'est le cas?
Oui, et des deux côtés.
Qui est à l'initiative, entre guillemets, de cette guerre d'usure? Ou est-ce que c'est juste un affaiblissement mutuel et le fait qu'aucun des deux ne puisse avoir l'avantage?
Non, alors à l'initiative, c'est clairement la Russie qui, dès le départ, a frappé dans la profondeur, a frappé l'énergie. Souvenons-nous, chaque hiver, on voyait des frappes se multiplier dans la nuit pour taper l'énergie. Donc c'est clairement la Russie qui était à l'initiative. Mais les Ukrainiens, depuis qu'ils sont bloqués sur le front, qui n'ont pas réussi l'offensive de l'été dernier, maintenant frappent dans la profondeur. L'énergie en particulier, les lieux de stockage, les lieux de raffinage du pétrole. D'ailleurs, ça fonctionne puisque les Russes ont interdit l'exportation du gasoil et de l'essence parce qu'ils n'en ont pas assez. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie des 1000 coups d'épingle. Mmh. C'est-à-dire que l'Ukraine tape à des tas d'endroits dans la profondeur pour épuiser le colosse russe.
Et ça, c'est permis par les armements livrés plutôt ces 12 derniers mois par les Occidentaux, que l'Ukraine n'avait pas au départ.
Alors, premier point, ces armements sont des armements fabriqués en Ukraine. Vous le savez bien, les Américains ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que leur armement soit utilisé dans la profondeur. Ensuite, les armements que nous fournissons, par exemple les Scalp et Storm Shadow, les qui missiles. Permettent de tirer dans la profondeur, qui sont extrêmement précis et extrêmement efficaces, ils ne sont utilisés que sur les territoires occupés par la Russie. En revanche, dans la profondeur, alors Tatarstan, etc., même très très loin, jusqu'à 1500 km, eh bien ce sont des petits drones fabriqués par les Ukrainiens.
Oui, le patron du Crédit Agricole Ukraine, Carlos de Cordoue, un Français resté donc en Ukraine depuis le début de la guerre, nous racontait tout à l'heure dans Les Voix de l'économie sur Radio Classique que l'Ukraine fabrique aujourd'hui plus de 10 000 drones par mois. Et c'était zéro avant la guerre. C'est des usines montées de toutes pièces.
Complètement. Et ça, c'est une révolution. J'ai rencontré un fabricant de drones français qui a dit que quand il était allé en Ukraine, il a été frappé et il me dit c'est une start-up. L'armée ukrainienne réagit comme une start-up. Bricole, est capable de transformer les choses et on en voit les effets aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on sort d'une guerre d'usure?
Eh bien, je reprends les termes de Clémenceau, c'est celui qui tient le dernier quart d'heure qui gagnera. Donc ça va durer, il faut tenir, c'est extrêmement compliqué. Dans la durée et sur la longueur, la Russie qui met tous ses moyens dans la bataille, il faut bien le voir. L'économie de guerre, c'est pas un vain mot en Russie. C'est tout le monde se met au travail pour fabriquer des armements. Mais qui est-ce qui en pâtit? La population. On voit les manifestations qu'il y a actuellement dans l'Oural, en particulier après les inondations, où la population dit mais finalement on privilégie tout ce qui se passe sur le front, mais nous derrière on est un peu laissé pour compte.
Il y a un acteur qui aurait moyen de faire basculer la guerre, c'est la Chine. Il y a eu encore une rencontre diplomatique cette semaine entre Russie et Chine. Christian Makarian nous faisait la liste de tout le matériel militaire fourni par la Chine à la Russie. C'est vraiment l'assurance vie de Moscou?
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la Russie, qui veut redevenir une grande puissance, a en fait réussi à devenir un vassal de la Chine. C'est ça, ça n'est plus une grande puissance, elle est vassale de la Chine. La Chine a un rôle important à jouer, et c'est pour ça que le dialogue avec la Chine est important. Je rappelle que le président Xi va venir en Europe, et va venir singulièrement en France, pour célébrer un anniversaire important, il va passer plusieurs jours. Pour l'instant, la Chine évite que la Russie n'aille trop loin. Par exemple, l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui est totalement rejeté par la Chine. Mais la Chine ne peut pas dire à la fois qu'elle est pour le respect des frontières internationalement reconnues, et ne pas condamner l'action de la Russie. Donc il faut que la Russie aille plus loin, mais l'ira-t-elle? Parce qu'elle a intérêt à avoir un vassal comme la Russie qui lui fournit à faible coût beaucoup de matières premières, et elle, ça lui permet de commercer, au passage, non pas tellement avec la Russie, mais surtout avec l'Europe et les États-Unis.
Que peut espérer en face, concrètement, encore Volodymyr Zelensky de la part de ses alliés occidentaux? Le soutien s'est un peu effrité, hein, à la fois côté américain et côté Europe.
Alors, côté américain, on a parlé du blocage aux États-Unis. Je refuse de...
Et on est en campagne présidentielle.
Oui, mais je refuse ce qu'on dit à propos de l'Europe. Je rappelle que l'Europe a voté 50 milliards au mois de décembre. On l'oublie. Actuellement, l'Europe est en train de s'aligner complètement pour aider. Simplement, ça prend du temps. Mmh. Je le rappelle que les Européens, et on ne le répète pas assez, sont dans une zone complètement pacifiée depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'il faut se rappeler. Malheureusement, la Russie, qui n'a pas digéré la chute du mur de Berlin, veut revenir à un état de grande puissance. Donc, ces Européens ont décidé de s'aligner derrière l'Ukraine. Du côté des États-Unis, on peut se poser des questions à propos des élections du mois de novembre, mais globalement, parce que les Américains disent, les Européens, encore une guerre, la première, la deuxième, encore une guerre en Europe, ça nous intéresse pas. Et c'est pour ça que les Européens doivent se dire aujourd'hui, et on a des élections dans pas loin longtemps en Europe, qu'on doit arrêter de dépendre du vote de 200 000 Américains tous les 4 ans. Parce que c'est ça ce qui se passe. Ça a basculé du côté des républicains ou des démocrates. On va quand même pas, en Europe, dépendre des élections américaines. Les Américains ont le droit de décider...
Pardon, militaire mondiale et de très loin, c'est pour ça.
C'est la puissance militaire mondiale. Mais croyez-vous que la Russie peut vaincre l'Europe? Elle n'arrive pas à vaincre l'Ukraine. Elle ne peut pas vaincre plus l'Europe, mais celle-ci doit s'organiser.
Général Dominique Trinquant, Emmanuel Macron ne cesse de mettre la pression sur les industriels français de l'armement pour produire plus. Que pensez-vous de ces demandes répétées? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu incantatoire, vu qu'a priori ils produisent ce qu'on leur demande?
Alors, il y a un réveil, mais ils produisent ce qu'on leur demande parce que on les a bousculés. J'ai travaillé dans des sociétés liées à l'armement. Si vous voulez, on était dans un autre monde. On travaillait pour l'armée française, pour l'export, mais pas l'export européen, essentiellement. Alors, je parle pas des avions, Dassault est un cas particulier, mais ailleurs. Et aujourd'hui, l'Europe doit s'organiser pour fabriquer entre les pays européens les produits nécessaires à l'Europe. Et là, c'est un changement fondamental, parce qu'aujourd'hui, il y a un fractionnement complet de l'industrie de défense en Europe. Et le rapprochement entre les Français et les Belges dans l'équipement, vous me direz, c'est petit, mais c'est quand même utile. Camo est un programme important. La fabrication de munitions de petits qui a libre avec le bel Herstal est important. Le rapprochement de Arcus et de Cockerill est important. Et les décisions qui ont pris du temps, mais entre les Allemands et les Français, de construire un char ensemble auquel les Italiens veulent se joindre, à mon avis, ce sont des pas importants. On ne change pas une situation qui, depuis 30 ans, était assez confortable à la situation actuelle. Mais elle est en train de changer.
On apprenait aussi, il y a quelques heures, que le porte-avions Charles de Gaulle allait être placé pour la toute première fois sous commandement de l'OTAN. Une mission alors d'à peine 15 jours. Est-ce que c'est purement symbolique?
Non, ça n'est pas purement symbolique. Aujourd'hui, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Ça ne fait aucun doute. Les Français, qui ont toujours été un peu une position spécifique dans l'OTAN, ont toujours été dans l'OTAN. J'étais officier opération au 2e corps en 90. Je peux vous dire qu'on travaillait qu'avec l'OTAN.
Et ça se passe comment concrètement quand un bâtiment français passe sous commandement OTAN?
Ben, ça veut dire d'abord, faut voir les choses dans l'autre sens, qu'il va commander, comme navire amiral, des forces européennes et des forces de l'OTAN.
Et son groupe aéronaval,
un sous-marin. Il y aura des frégates, un sous-marin, etc. européen. Et deuxième point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rapportera à un état-major de l'OTAN. Au lieu de rapporter, alors il rapportera aussi, bien sûr, à l'état-major français. Faut pas s'imaginer qu'on est complètement coupé. Il y a toujours ce lien particulier aux nations, et c'est pas propre à la France, c'est propre à toutes les nations. Mais voilà ce que ça veut dire, et ça veut dire qu'il contribuera à une mission dans le bassin oriental de la Méditerranée, qui est tenue par l'OTAN.
Pour montrer les muscles face à la Russie, bien sûr.
Bien sûr, il s'agit d'être dissuasif pour dire à la Russie, n'allez pas plus loin, nous sommes très forts.
Le général Dominique Trinquant était notre invité en direct, merci beaucoup, auteur aussi de ce livre, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, paru chez Robert Laffont. Très bonne journée à vous. Il est 8h29, dans quelques instants, le rappel les titres, et puis Esprit libre avec Jean-Marie Colombani et Cécile.